Allez, comment c'est la deuxième heure de ce 1206e Sweet Home Chicago avec donc la passionnante interview de Fabrice Bessois, batteur, tourneur, road manager, organisateur de concerts et bien sûr archi passionné de blues qui nous distillera des anecdotes issues de son expérience de musicien avec qui nous évoquerons Bernard Selam, Nick Owen Toussaint, Julien Brunto, Anthony Stelmazac, Chantal Sanchez au couturier, les scènes blues bordelaises et nantaises, Thomas Troussier, Arnaud Frada, mais aussi de fructueuses rencontres avec B.B. King et Jimmy Johnson, notamment une interview palpitante qui sera émaillée de belles illustrations musicales, jugées plutôt Curtis Salgado, Nick Owen Toussaint, J.B. Boogie, B.B. King, Jimmy Burns, Jimmy Johnson et Monster Mike Welch. La deuxième partie de cette interview sera diffusée dans deux semaines, samedi 21 octobre. Fabrice Bessois, bonjour Fabrice.
Salut Marc, ça va ?
Ouais, ça va très bien, merci, toi aussi ?
Oui, super.
Très content de te parler à nouveau, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé au téléphone dans l'émission. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est vu, la dernière fois c'était au Porretta Soul Festival cet été. Tu regardes un bon souvenir en particulier ou voilà, c'était la routine, c'était bien quoi ?
Non, la routine, non, je peux pas dire ça, non, ça reste un événement et je suis ravi et tellement honoré de pouvoir participer à ce festival, cet événement. C'est la quatrième année qu'on y va avec Curtis Salgado.
Ouais.
Et j'avoue, j'en rêvais depuis des années. Je suivais ça, notamment sur YouTube. Ils retransmettent l'intégralité des concerts chaque année.
Mmh.
Et donc, ça, le contact s'est fait avec Graciano par l'intermédiaire d'un certain Sax Gordon.
Oui.
Et qui m'avait permis de pouvoir proposer certains artistes. Et ça a pris quelques années. Et puis à un moment, il y a une relation de confiance qui s'est installée avec Graciano, qui est un être exceptionnel, qui a une histoire assez folle. Et ben voilà, c'est un festival à taille humaine avec des gens bien et de la bonne bouffe évidemment et surtout une programmation artistique redoutable quoi.
Et beaucoup de passion chez Graziello Magali comme dans toute son équipe effectivement. Moi j'y étais pour la première fois en 2023, je découvrais c'est un festival XXL même si ça reste comme tu l'as dit à taille humaine, il y a des belles rencontres à y faire, il y a une programmation de feu quoi. Enfin voilà.
Ouais, programmation de feu. Ben je pense qu'en Europe quand même, c'est peut-être un des seuls ou voire le seul festival orienté musique soul Memphis. Et toutes les connexions qu'il y a eu autour de ça avec tous les labels, tu vois. Et Graciano va là-bas, rencontre les artistes depuis des années, et puis voilà, il leur donne l'occasion de venir en Europe. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui dure plus de 4 heures par soir.
Mais oui.
Et une revue soul avec plein d'intervenants, c'est juste magique, hein. Moi, j'adore cette musique depuis des années, et pouvoir assister à ça, c'est vraiment très, très inspirant, évidemment, quoi.
Testify a little bit.
Yeah.
Yeah. What is the meaning of life? Well, I can't talk philosophy. I know that every new sunrise, the more it dawns on me. Well, I may be getting to know. I played the valleys low. And for all the gigs I've done, I ain't got much to show. No, I'm never slowing down until I play my final set. 'Cause the longer that I live, the older I wanna get. Oh, you better believe it. Yeah. I wanna keep on keeping on with every new sunrise.
Et tout ça depuis 35 ans sous la houlette de Graziano Uliani et toute son équipe. Bah, Fabrice, avant, bien avant cette découverte, on va revenir non pas à la préhistoire, mais on va revenir un peu à tes débuts. Ouais. Pour situer, tu es au tout début de ton existence. Tu es du côté de Orthez, Pau, dans le 64.
Je suis né à Dax et je suis arrivé avec mes parents à un an et demi à Orthez de Béarn. Et j'y suis resté quasiment 20 ans. Et parcours orthésien, c'est-à-dire école de musique. Je voulais faire la batterie, je sais pas comment c'est arrivé. Ouais. J'avais demandé ça à mes parents, et puis seul moyen d'apprendre un peu la musique, c'était par l'intermédiaire de l'école de musique locale. Mmh. Et j'ai pas du tout touché de batterie pendant des années, comme toute école de musique qui se doit. J'ai plutôt fait du solfège, de la percussion classique, et voilà, j'étais quand même intéressé. J'avais un super prof qui m'a donné le goût à la musique. Et très rapidement, au collège, j'ai eu l'occasion d'être invité à participer, à être batteur dans un groupe. Là, c'était plus un groupe de reprise rock, et ça s'appelait Kawekanem, qui veut dire en latin attention chien.
Oui.
Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir participer à cette aventure pendant, je sais pas moi, 4 ans. Et moi, j'avais 15 ans, les autres musiciens avaient 19 ans, et puis on l'a été un peu les stars locales d'Orthez et ses environs. Et ça a vraiment bien marché, et il y a beaucoup de gens qui nous suivaient. On a fait des t-shirts, on a enregistré une cassette audio avec un radiocassette, avec un micro incorporé, rien que ça.
Wow.
Et c'était une belle aventure pour démarrer. Et là, j'étais autodidacte à la batterie. Mais c'était ambiance, reprise, variété, rhythm and blues, rock, tu vois. Et c'était les débuts des années 90, donc il y avait encore de la musique assez chouette à reprendre. Et aussi la musique passée, notamment les Blues Brothers, c'était pas mal de choses comme ça. Et aussi beaucoup de morceaux des Flying the Tox. C'était un des groupes que je suivais à l'époque. Et la batterie, ça commence à me plaire, mais j'étais autodidacte. Et suite à ça, j'ai continué les études de musique classique au conservatoire de Pau. Et à un moment, entre les études scolaires et études musicales, je pouvais pas faire les deux. Il a fallu faire un choix. Et j'ai arrêté mes études musicales au niveau fin d'études au conservatoire. Et suite à ça, j'ai fait une école à Gostigny, une école de batterie nationale.
Oui.
Et j'ai rencontré un certain Daniel Dumoulin à Toulouse. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Lorsque j'ai passé l'examen de fin d'année, pour la petite anecdote, j'ai rencontré un certain Bernard Selam.
Ah oui, d'accord, bien sûr.
Chanteur d'Awek, qui était invité à participer pour notre examen de fin d'année. On faisait une partie live, une partie écrite. Et pour la partie live, c'était Bernard qui venait avec d'autres musiciens pour jouer. Et nous, on passait chacun son tour à la batterie, quoi.
Et à l'époque, Awek existait déjà. Je crois que la formation du groupe remonte à 94. C'est à peu près à cette époque-là.
Ouais, je crois que c'est à peu près là. Ouais. Je crois qu'il était à la fin de son groupe précédent, Les Formidables.
Oui.
Et où c'était très rhythm and blues, ambiance Blues Brothers notamment. Et c'était les prémices ou le tout début d'Awek, en fait. Ouais. Et on se connaissait pas, hein, donc moi, j'étais très intimidé. Et, on en a parlé il n'y a pas encore si longtemps avec Bernard, et lui se rappelle de ce concert. Et pour moi, c'était une première expérience de jouer avec un vrai pro qui a la vraie voix, chanteur, un peu Otis Redding, tu vois. Mais voilà, la rencontre qui a été déterminante pour vraiment tourner une page et découvrir la musique autrement, j'allais dire. C'est par l'intermédiaire d'un certain Roland Pignot.
Oui, Roland Pignot, bien sûr.
Tu connais?
Bien sûr.
Et en fait, à l'époque, il était en contact avec Nico Hain Toussaint. Oui. Et Roland Pignot, qui est dessinateur tout d'abord, mais aussi chanteur harmoniciste de blues. Ouais. Il a voulu monter un groupe de blues et on avait des amis en commun vers Pau. Et il m'a proposé de monter dans le groupe et de rentrer dans le groupe. Et puis voilà, on a fait le premier essai et le groupe s'est arrêté, a repris. Puis à un moment, Nico nous a vus. Et moi, je commençais à peine à découvrir le blues, tu vois, je connaissais vraiment pas beaucoup cette musique. Et Nico m'a demandé de faire un remplacement dans son groupe.
Et là, on est au milieu des années 90 environ?
Ouais, 96, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Et là, ben voilà, Nico et Toussaint, moi je connaissais de réputation, mais j'avais jamais vu un concert, et là j'ai vu le concert depuis la scène. Déjà à l'époque, il avait une expérience, un vécu aux États-Unis et sur la scène internationale assez importante. Et déjà, il drivait ses musiciens. J'avais jamais connu ça. Et moi, tellement qu'il m'a fait jouer d'une manière que je ne connaissais pas, j'ai essayé de le suivre le mieux possible. Au point, à un moment dans le concert, il a voulu que je fasse un solo de batterie.
Ouais.
Mais pas n'importe comment, c'est-à-dire que lui, il était déjà assis au bord de la scène avec le guitariste, Rax Lacour.
Oui.
Et les deux étaient déjà ambiance intimiste acoustique. Très soft, très soft. Et moi, à un moment, il m'a fait signe tout en jouant de l'harmo, viens avec nous, quoi, tu vois. Et moi, j'étais complètement perdu, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et en fait, j'ai quitté la scène pour me rapprocher, j'ai oublié mes baguettes, quoi, tu vois. Et j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais lui, il savait très bien ce qu'il faisait, Nico. Il avait l'œil qui brillait, était là, il m'a fait un clin d'œil, il m'a dit, viens avec moi. Et là, il a pris un micro, son micro-champ, et il m'a invité à faire un solo sur le plancher de la scène, en fait.
D'accord.
Et je savais pas comment faire, donc je me suis dit, il faut le faire. Donc j'ai utilisé mes mains, quoi.
Bien sûr.
Et il m'a fait faire ça, et j'aurais jamais pensé, tu vois. Et à la sortie de ça, les gens étaient ravis, et moi, j'étais sur un nuage. Hein. Et à la sortie, Nico m'a dit, voilà, écoute, d'ici quelques mois, là, mon batteur va partir, est-ce que ça te dirait de venir dans mon groupe, quoi.
Et donc, tu as intégré le groupe de Nico Hain Toussaint à ce moment-là.
Ouais,
c'était à l'époque de son premier album pour Dixie Frog, il l'avait déjà fait ou...
Il avait déjà fait un.
Ouais.
Et si tu veux, moi, j'étais déjà engagé avec mon groupe, mais qui était devenu un orchestre de bal professionnel, c'est-à-dire qu'on était devenu intermittent, et c'était déjà moi, à l'époque, qui faisais du démarchage, comme par hasard. Et donc, j'étais assez engagé dans ce groupe, mais là, j'ai senti une opportunité pour moi, et les sensations, ce que j'ai vécu à travers ce concert, ça a été quelque chose qui m'a donné envie de suivre de continuer cette aventure avec Nico. Et donc, j'ai osé dire stop à l'engagement avec l'orchestre de bal, et je suis parti avec Nico sur la route, et ça a été une aventure extraordinaire, parce que pendant 3 ans, c'était en moyenne une centaine de concerts.
Ah oui.
France, Belgique, Hollande, quoi. Je découvrais la Belgique, je découvrais la Hollande. Et musicalement, là, ça a été Nico m'a appris à oublier ce que j'avais appris à l'école musique au conservatoire, et m'a appris à développer l'écoute, le feeling, le swing, et il a commencé à m'inviter à écouter des albums de référence. Jusqu'à là, j'avais pas vraiment de culture musicale blues, tu vois.
Mm-hmm.
Et entre lui et un jeune pianiste qui était aussi dans le groupe, un certain Julien Brunotto.
Ah oui, Julien JB Boogie après, effectivement.
C'est ça,
ouais.
C'est ça. C'est comme ça que je l'ai rencontré, Julien. Il avait 16 ans et demi. Et moi, je devais avoir 20 ans, quoi, tu vois. Et ben voilà, énormément de concerts, une émulation, une entente avec le bassiste qui s'appelait Greg, et Rax Lacour la guitare. Ouais, l'ambiance, humainement, musicalement, c'était exceptionnel. Et puis moi, j'étais très demandeur pour apprendre, pour découvrir, donc j'arrêtais pas d'acheter des albums. Julien et moi, on n'arrêtait pas. C'était celui qui trouvait le premier tel album, tel album. Et là, j'ai commencé à faire ma discographie, à découvrir cette musique et à rencontrer énormément de musiciens à Bordeaux, à Nantes, et puis en Belgique et en Hollande, quoi.
Et oui, et ensuite, voilà, l'aventure dans le 64, ces 3 années passées au sein du Nico Ventus Saint-Barn. Et ensuite, tu es arrivé à Bordeaux, où tu es resté plusieurs années. Tu as joué avec Julien Brunotto à ce moment-là. Hein.
Ouais, après 3 ans avec Nico, voilà, Julien, il venait de s'installer à Bordeaux, et voilà, il avait envie, il était prêt, il sentait prêt à lancer son premier groupe, et comme un accord avec Nico, et on s'est dit, nous, on va continuer l'aventure autrement, oui. Et Nico aussi devait avancer autrement, et moi, je l'ai suivi avec Julien, on s'entendait tellement bien, et donc moi aussi, je me suis installé à Bordeaux. Et on avait commencé à côtoyer un certain Nicolas Duboucher et un certain Anthony Stelmazac.
Ah oui.
Et c'est comme ça, en fait, il y avait un lieu où on se retrouvait qui s'appelait le Comptoir du Jazz, qui est du Paludate, qui était un lieu mythique où le patron Michel Darroch était un fou de jazz, de blues, de partout sur les murs, il y avait des photos souvenirs, des concerts qu'organisait Black and Blue, en fait. Et Michel Darroch, c'était un des chauffeurs des artistes en tournée Black and Blue, quoi.
1, 2, 3...
Donc il y avait un grand piano sur la scène et là on se retrouvait tout le mardi pour faire des jams et c'est là qu'il y a eu vraiment une scène vivante à Bordeaux où énormément de musiciens, Nico Longe, Mick Tocqueau, Fabio, etc. Des anciens du Cricketers quoi. Moi j'ai pas connu le Cricketers, je suis arrivé juste après.
Alors ça, on m'en a souvent parlé de cet endroit-là. Et
tu l'as connu toi ou...
Moi j'y suis jamais allé parce que la région de Bordeaux à l'époque j'y allais pas. Et voilà, ça reste dans les mémoires de pas mal de gens. J'en ai parlé avec Fabio notamment. Enfin, voilà,
Ben là, vraiment, il y a une scène blues bordelaise qui est née suite à ça, parce que ce soit Tony, Mick Tocqueau, Vince Paulivillard, Fabio, Alain Baudry aussi, le batteur, ils ont vécu là-bas et les concerts étaient quasiment tous les jours. Ils ont vu tout le monde. Quoi. Donc évidemment qu'ils ont monté un groupe, évidemment qu'après chacun a monté ses propres projets. Et il y avait une scène déjà à l'époque bordelaise assez exceptionnelle. Et c'est vrai que quand Julien a débarqué à Bordeaux, alors là, ça a été l'événement. Julien, un talent et l'envie de jouer avec tout le monde, une énergie sur scène et en dehors de la scène. Partout, il y avait un piano à Bordeaux. On a tout écumé. Quoi. Ouais. Tous les restaurants, tous les bars... Dès qu'il y avait un piano, il commençait à jouer, il se passait quelque chose, quoi.
Et là, on arrive au début des années 2000, c'est ça, grosso modo, Fabrice ?
Ouais, je crois que c'est ça.
Ouais, c'est à peu près au moment où, je sais plus, c'était en 2002 ou 2003, où j'avais découvert, moi, de mon côté, un petit peu plus tard, Julien Brunetaut, je sais pas si tu devais avoir 20 ans, en 2002 ou 2003.
Ouais.
Et donc, c'était sur la place François 1er, je m'en souviens, comme si c'était hier.
Ah oui, c'est vrai.
Et toi, Fabrice, tu as suivi un petit peu le réchauffement climatique, parce que de Pau, tu montes à Bordeaux, ensuite tu montes à Nantes. Hein
ouais, c'est ça. Ouais,
tu fuis la chaleur.
Je reste sur la West Coast quand même, on est bien d'accord.
Exactement.
Mais c'est vrai que, Bordeaux c'était super et vraiment avec Julien, JB Boogie, c'était exceptionnel. Notamment avec Julien, on a vécu des choses folles, notamment la première voyage ensemble. Nous deux, on est partis à la Nouvelle-Orléans et partis en voiture le long du Mississippi pour s'arrêter à Clarksdale et aller jusqu'à Memphis. Déjà là, grâce à Julien et puis d'autres personnes qu'on a rencontrées sur place, on a vécu des moments très très forts. Et puis avant de partir de Bordeaux, on a vécu aussi quelque chose d'assez fou. C'est des amis qui nous suivaient au comptoir du jazz, Yvan et Chantal, et ils ont eu une idée folle de
Sanchez.
Se marier.
Ouais,
exactement.
Ouais.
Et ils ont eu une folle de se marier à Clarksdale, au Mississippi. Et suite à ça, des gens de là-bas leur avaient dit, si jamais un jour vous voulez revenir avec des musiciens français, on peut essayer d'organiser quelques concerts, tu vois. Et ben de quelques concerts, c'est devenu, on a fait une tournée avec Tony, Longe, Julien Brunetaut. On est allé là-bas pendant plus de 2 semaines. Et on a joué dans tous les jukejoints autour de Clarksdale.
Ah, énorme.
Et on a rencontré B.B. King himself, parce que c'était l'année où, chaque année, pardon, il venait pour le Homecoming, faire un concert pour soutenir une amie d'enfance dans son club, le club Ebony. Mais aussi, cette année-là, c'était tout simplement l'année où vous allez lancer la construction du B.B. King Museum.
Ah, voilà.
Donc, en fait, cette année-là, quand on y était, le matin, il y avait une conférence de presse internationale, c'était la folie, quoi. C'était un événement. Et B.B. King, on l'a aperçu de loin, il était disponible avec tout le monde, il discutait avec tout le monde, très calme, très accessible. Et là, on nous annonce, nous, on devait faire un concert en première partie B.B. King le soir à l'Ebony Club. Mais en plus de ça, le matin, on nous annonce, finalement, vous allez faire un concert dans une université juste à côté, à Oxford, à Mississippi. Et on nous en dit pas plus, en fait, tu vois.
D'accord.
Et là, on débarque par l'arrière de la scène, et on est au bord de la scène, il y a un musicien black américain qui faisait une balance. Et on aperçoit, quoi, c'était un hall avec 3 balcons. T'avais 2000 étudiants blacks, quoi. C'était énorme. Et là, les musiciens blacks qui étaient sur scène finissent leur balance. On n'a pas eu le temps de savoir ce qui se passait, tu vois. Et l'organisateur de l'événement nous dit, c'est à vous. Vous pouvez faire 3 morceaux, quoi. Et on monte sur scène. Julien lance un petit boogie. Et à un moment, Tony prend le lead pour le second morceau et se lance sur un Sweet 16 de B.B. King, tu vois.
Oui.
Et pendant qu'il chante, à un moment, second couplet, c'est l'hystérie, quoi. Et on comprend pas ce qui se passe, quoi. On est en train de jouer et ça crie, et on regarde autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde autour de moi tout en jouant et à un moment, je regarde une seconde fois derrière moi et qui c'est que je vois? B.B. King.
Lui-même, incroyable.
Avec une chaise qui voulait s'installer derrière nous sur scène pour nous écouter, quoi. Et là, Tony, t'imagines, qui dit au micro, si un jour on m'avait dit que j'allais faire Sweet 16 devant Monsieur B.B. King. Et donc, on était comme des fous, mais quand même impressionnés, les gens, il y avait une ambiance électrique, quoi. Et on le regardait, c'était plus fort que nous pendant qu'on jouait, et il arrêtait pas de nous féliciter, de nous faire un pouce à chacun, tu vois.
Wow.
Et après les 3 morceaux, il prend le micro, et il dit aux gens, aux étudiants, sachez que ces gens-là viennent de France, et qui me rappelle tellement la musique que je jouais dans les années 60. Messieurs, merci, et c'est vraiment un plaisir de vous écouter, quoi.
Ah putain, alors ça c'est de l'anecdote, hein, Fabrice, franchement. Ah ouais,
c'est énorme, c'est énorme. Et en fait, les musiciens qui étaient là avant nous, qui faisaient la balance, c'était ces musiciens. Ah donc, ouais, t'avais ouais. Caleb Humphrey, t'avais un big band de malade. Et suite à notre passage, nous, on le savait pas. C'était prévu que B.B. King fasse une masterclass, quoi. Donc, d'accord. En fait, on sort de scène, on est même plus sur un nuage, là. C'était un truc énorme, quoi. On sort de la scène, et là, on nous accapare de partout, et pendant que les musiciens B.B. King s'installent. Et à un moment, B.B. King vient sur scène, s'installe, et nous, on s'assoit à même le sol sur le plancher, et on est au premier plan pour assister à sa masterclass, quoi. Et là, ben, la masterclass, ben, il raconte comment il a rencontré cette musique, comment il a découvert premier accord, enfin, toute son histoire. Et les musiciens derrière, ça jouait, mais tout doucement, mais vraiment, on râle les pâquerettes, quoi, tu vois. Ouais. Et à un moment, il dit, bon, on va arrêter de parler, on va jouer. Et là, il prend sa fameuse Lucille. Et là, un coup de caisse claire, le big band, il explose, quoi. Et je peux te jurer, les frissons qu'on avait, c'était un truc de malade. Et là, il fait deux morceaux et c'était magique. Et là, il raconte aux étudiants, ben voilà ce qui se passe à la fin d'un concert. Normalement, on fait une jam, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire la jam avec nous, quoi? C'était plus ou moins prévu. Et il y avait déjà une vingtaine de jeunes étudiants guitaristes qui attendaient au bord de la scène, tu vois.
D'accord.
Et le batteur et le clavier, le bassiste regardent autour, qui c'est qui veut prendre la place, quoi, tu vois. Et nous, on voulait surtout pas s'imposer. On était là, on comprenait pas ce qui se passait. Puis il y avait des places prioritées aux étudiants. Eh ben, finalement, il n'y avait pas de batteur et finalement, il n'y avait pas de clavier. Donc, Julien et moi, on est venus faire la jam, quoi.
Ah oui, terrible.
Et donc, on est arrivé sur scène. Moi, je me suis assis. T'avais B.B. King. J'avais B.B. King devant moi, assis, quoi, tu vois. Et il y avait une dizaine de jeunes guitaristes. Donc, il explique les règles du jeu. Il dit, bon, voilà, tout simplement, messieurs, celui qui joue plus fort que l'autre, il a perdu, quoi. Et en fait, au moment, il dit, qu'est-ce que vous voulez jouer? Personne n'osait parler. Et il dit, bon, ben, Mr. Drummer, are you okay with the shuffle? Et là, j'ai dit, yes, sir. Et donc, on a fait un shuffle, mais gentil, tu vois. C'était pas un vrai concert, mais quand même, on a participé à ça. Ouais. Et après, on a pu discuter avec lui. Le soir, on a pu rediscuter avec lui après le concert. C'était vraiment une expérience exceptionnelle. Et ça, c'est grâce à Yvan et Chantal, quoi.
On va leur rendre cet hommage-là, ouais, parce qu'effectivement, sans eux, vous n'auriez peut-être pas été dans le secteur. Et là, c'est le genre de choses que tu raconteras à tes petits-enfants, Fabrice.
Ouais, complètement. Ah. Et puis, dès que je peux le raconter, je le raconte, parce que c'est vraiment... Ah, oui. Après, nous, on en reparle entre nous, tu vois. C'était une aventure extraordinaire. Ouais. Et c'est vrai que ça nous a marqué à vie, parce que à plein niveau, les musiciens sur place, les gens, l'accueil... Et t'apprends aussi le côté universel de cette musique, où d'où tu viens, ils ressentent, et eux, cette musique, ça leur parle tellement qu'on a vu les gens danser, chanter, c'était waouh, c'est très, là aussi très inspirant.
what the world's gonna happen to me.
Bah, tout ça, Fabrice, ça conditionne la suite de cette interview parce qu'on va parler des artistes soul shot et des gens avec qui tu travailles. Parce que franchement, voilà, il n'y a pas eu B.B. King, bien sûr, mais il y a eu des artistes, pas forcément de cette trempe-là, mais en tout cas qui partagent le même état d'esprit, c'est-à-dire celui justement du partage, de la générosité et puis de la simplicité finalement. Parce que même si on arrivait au top comme un B.B. King ou quelques autres comme Buddy Guy, on pourrait dire maintenant, eh bien, ces gens-là continuaient ou continue à cultiver le côté humain qui a fait leur renommée et puis la recette de leur carrière.
Complètement. C'est-à-dire que ça a été, là, sur le moment, je ne réalisais pas, mais quelques années après, j'ai réalisé.
Ouais.
Voilà, c'est vrai que je suis allé beaucoup aux États-Unis, moi, avec mon propre plein gré, c'est-à-dire j'ai rencontré des musiciens américains en Hollande qui m'ont invité à aller jouer là-bas, notamment à Tucson, en Arizona. Tucson, comme ils disent.
Oui, chez Bob Corritor, peut-être.
Alors, c'est Bob que je l'ai rencontré là-bas grâce à une pianiste qui s'appelle Lisa Oté.
Lisa Oté.
C'est une des pianistes de Candy Kane.
Ouais.
Et c'est là que j'ai rencontré en Hollande grâce à Mr. Boogie Woogie, Eric Jan Overbeek.
Ouais.
Et je suis allé là-bas chez Lisa Oté plusieurs fois pendant plusieurs semaines. Et en fait, Lisa connaissait beaucoup de monde et notamment elle m'a fait rencontrer Johnny Rawls que j'accompagnais là-bas. J'ai accompagné beaucoup de musiciens là-bas et aussi j'ai surtout accompagné grâce à elle un festival, lors d'un festival qu'elle a organisé là-bas, Paito Perkins.
Ah,
et il avait 92 ans. Et si tu veux, tout ça, ces expériences vécues, Bob Corritor, je suis allé beaucoup à son club, j'ai rencontré d'autres musiciens là-bas. Grâce à lui, j'ai rencontré Monsieur Sam Lane, le batteur notamment de Howlin' Wolf, tu vois.
Mm-hmm.
Et tout ça, ouais, quelques années après, tu réalises que la musique, cette musique-là, bien sûr, il y a du feeling, bien sûr, il y a un son, mais il y a aussi une attitude, une écoute. Et quand tu les vois sur place, ils sont capables d'aller jouer, bien sûr, dans un bar où il y a deux personnes ou un festival où il y a 20 000 personnes. Ils jouent de la même manière.
Exactement.
Et ils abordent les gens, et même si t'as deux personnes, ils vont tout donner pour ces gens-là. Et il y aura une connexion qui va se faire avec ces gens-là. Et en dehors et sur scène. Et tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et c'est ça qui m'a touché le plus. Et c'est ça que j'ai retrouvé avec certains artistes que j'ai pu faire venir en Europe, avec qui j'ai travaillé dans le cadre de tournée Soul Shot.
Alors, on va évoquer tout ça, mais on va aussi signaler, Fabrice, que outre ta résidence à Nantes, à partir de, je ne sais plus, c'est vers 2007 par là.
C'est ça.
Tu t'es également installé sur New York. Tu as vécu à New York.
Ouais, tout à fait. Ouais, alors.
Mais pourquoi New York? Parce que tu nous parles de l'Arizona. On peut penser aussi au Mississippi, le berceau du blues. On peut penser à Chicago.
Ouais. New York, c'est.
Bah oui, voilà.
Ben là, c'est pas pour la musique, c'est pour l'amour, quoi.
Ah.
C'était ma compagne à l'époque que j'ai rencontrée en France, qui a eu une opportunité professionnelle pour travailler un an là-bas avec un appartement de fonction à Manhattan, je sais pas si tu vois.
Ah bah oui.
Donc ça, voilà, c'était le début d'une belle histoire. Et moi, j'étais à Nantes depuis 3 ans. Je faisais pas mal d'allers-retours aux États-Unis. J'étais à Nantes parce que je jouais avec Maltel Milk à l'époque. J'étais en colocation chez Arnaud Fradin. Et puis à un moment, la vie a fait que je me suis dit, c'est une sacrée opportunité, j'avais envie de la suivre. Et j'ai réussi à obtenir un visa de touriste d'un an pour pouvoir l'accompagner là-bas. Et ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi. Et en fait, avant la fin de la première année, elle a eu une opportunité professionnelle là-bas qui fait qu'il fallait qu'elle reste plus longtemps. On a discuté, j'ai pesé le pour le contre. Et c'est là le moment clé où je me suis dit comment je vais faire pour gagner ma vie en tant que musicien, parce que la première année c'était pour moi une année sabbatique, mais parce que je pensais rentrer derrière ça, tu vois.
Ouais.
Et là, en parlant avec pas mal de copains autour de moi, notamment un certain Thomas Troussier, je me rappellerai toujours, qui est venu nous voir, et c'est lui qui m'a dit, mais Fab, lance-toi à faire des tournées.
D'accord, c'est de là que c'est arrivé, cette idée de justement faire venir les musiciens américains et les accompagner en France et en Europe.
C'est ça, parce que la réalité faisait que musicien à New York, c'était très dur pour avoir sa place et pour les conditions financières vraiment pas très bonnes, alors que le niveau de vie est très élevé. Et c'est là où j'ai réalisé que je pouvais pas m'installer et vivre de ce métier là-bas. Alors que organiser des tournées, donc regrouper des dates sur une période donnée et revenir peut-être 2 ou 3 fois par an de New York en France, c'était tout à fait possible. Je connaissais pas mal d'artistes comme Mike Welch et d'autres. Et je me suis dit, en effet, j'osais pas me dire que c'était possible, mais là, j'avais pas le choix en fait. Et le fait de ne pas avoir le choix, j'ai essayé de faire tout ce qui est possible, de mon possible, pour y arriver. Et ça a marché. Ça m'a permis de garder mon statut d'intermittent, en fait.
Voilà. Et ensuite, tu as créé cette structure, cette agence de booking qui s'appelle Soul Shot. C'est quoi? C'est 2015 à peu près?
Vite fait, je je dirais, ouais, on va dire ça 2015. En fait, quand j'ai lancé ces tournées, pour rien, pour être honnête, c'était un moment où on se côtoyait un tout petit peu, on s'était aperçu avec une certaine Aurélie Rouquet,
oui,
qui, elle, je l'avais rencontrée...
On the road again.
Ouais, alors c'était avant ça, elle allait démarrer ça, sa propre structure, et on s'était connus par l'intermédiaire d'un festival qui avait lieu à Pornic, c'était Alain
Leclerc. Ouais, c'était Europa Blues, c'est ça.
Hein. Exactement, ouais. Et on y avait joué quelques fois avec Julien, et à l'époque, Aurélie était bénévole.
Complètement, moi je vous ai vu là-bas, ça remonte à 2002 ou 2004, je sais plus exactement.
Ouais. Et quelques années après, on est resté en contact, et puis à un moment, on s'est bien trouvé à ce moment-là. Elle voulait lancer sa structure On the Road Again, mm-hmm, et chercher un peu des artistes pour faire tourner, et moi, je cherchais une structure administrative pour pouvoir contractualiser tout ça, c'est-à-dire trouver des artistes, trouver des concerts. Je pense que j'étais capable, mais après, le côté administratif français, j'avais besoin d'une structure pour m'aider à faire ça. Donc, c'était donnant, et on s'est mis d'accord pour lancer une première tournée avec un certain Jimmy Burns.
Ah oui.
Parce qu'on l'avait c'était Aurélie qui avait une personne qui l'avait recommandé, et une personne, un Français qui vivait à Chicago, et qui côtoyait tous ces artistes. Et donc, on a commencé avec Jimmy Burns à organiser une première tournée.
This love I feel is so real. I want you to spend some time with me. I want you to spend some time with me. Too much time has been wasted. I need your love, I can taste it. So let's take a flight, it's so right. Tonight's perfect for lovers, so let's get lost in each other. Heroes meant to be, can't you see? I want you to spend some time with me. I want you to spend some time with me. Has been wasted. Need your love, I can taste it. So let's take a flight. It's alright.
Moi, après, j'ai voulu faire Mike Welch. Et grâce à Jimmy Burns, l'année d'après, là, ça a été un honneur. On a pu faire tourner et faire venir un certain Jimmy Johnson.
Jimmy Johnson, bien sûr, on s'en souvient.
Et quand tu parles de simplicité, d'humilité, d'humanité... Ah, oui. Et de talent et de vécu, là, ça a été une sacrée rencontre. Et cette rencontre, elle a duré plusieurs années, et je dirais 6 ans. Et il avait 86 ans qu'on l'a rencontré.
Ouais.
Et c'était génialissime parce que la toute première fois, comme dirait la chanson, c'était, si je ne me trompe pas, on a répété chez un certain Patrick Lecasseur.
Oui, à Band Blues.
Ouais, et le premier concert, je crois que c'était là-bas. Et en fait, on a répété dans son garage avec sa batterie à Patrick. Et tu peux te douter que Patrick n'était pas peu fier. Mais voilà, c'était le début. Et Jimmy, il a été très touchant parce que lors de la répète, il nous a dit « Mais les gars, vous avez bossé mes morceaux. » Et je lui ai dit « Mais c'est pas qu'on a bossé tes morceaux, on est fan de toi depuis des années. » Et on est tellement honoré de pouvoir jouer enfin tes morceaux avec le vrai, quoi, himself, Jimmy Johnson. Ça a été humainement, musicalement, des discussions, des échanges exceptionnels. Moi, j'ai beaucoup appris de lui, parce que notamment une anecdote parmi d'autres, mais on avait fait une tournée, et notamment des concerts à Bleu-sur-Seine, à Mantes-la-Jolie, les environs, avec des interventions dans le milieu scolaire, le lendemain des attaques à Paris.
D'accord.
Et j'ai raconté à Jimmy ce qui s'est passé. Et le lendemain matin, on faisait une intervention dans un lycée à Mantes-la-Jolie. Mmh. Et ce moment, je te jure, il y avait Sax Gordon qui était avec nous parce que le festival nous avait demandé si on voulait bien qu'il se joigne à nous parce que le groupe avec qui il était, ils avaient tous eu peur et en panique, ils étaient tous rentrés. Mais Jimmy et Sax Gordon, ils ne voulaient pas rentrer, eux, ils voulaient continuer. Et en fait, lors de cette intervention dans le lycée, Jimmy, il a eu un discours, mais... sur la vie, lui il vivait dans le ghetto quartier sud de Chicago, donc la violence il la connaît. Et il disait malgré tout ça, il faut faire des choses dans la vie, beaucoup de bon sens, beaucoup de belle philosophie de vie. Et les jeunes étaient en larmes quoi. Il y a une émotion, c'était fantastique.
Et ça c'est toi qui traduisais ce que disait Jimmy Johnson à ce moment-là?
Ouais, tout à fait.
Ouais, ouais. Et donc les gens ont vraiment compris son message. C'est vrai que Jimmy Johnson, enfin moi j'ai toujours assimilé au gentleman du blues, tel que on peut le rêver. Hein, il incarne vraiment ce personnage-là. Il y en a quelques-uns comme ça. Tu évoquais Jimmy Burns, il est pas loin d'avoir un peu la même classe.
Doctor!
Voilà, c'était la première partie de cette interview de Fabrice Bessois, illustrée par Curtis Salgado avec The Longer That I Live sur l'album Damage Control, enregistré cette année chez Alligator Records. Nico N. Toussaint avec Hot Sometimes, ça date de 2000, c'était sur l'album Blasting the Blues. JB Boogie featuring Fabrice Bessois à la batterie avec Hey Now, live au comptoir du jazz, ça remonte à 2002. B.B. King en 1972 avec ce fabuleux Sweet 16. Jimmy Burns, Spend Some Time With Me sur l'album Nighttime Again, Delmark Records en 1999. Et Jimmy Johnson avec Jockey sur l'album I'm a Jockey chez Birdology en 1994. On ne pouvait pas être tout à fait complet, même sur ce premier volet avec Fabrice Bessois, sans passer un extrait de Nothing But Time, le dernier album de Monster Mike Welch sur lequel officie carrément Fabrice Bessois à la batterie. C'est enregistré en Californie chez Kid Anderson, c'est chez Gulf Coast Records bien sûr. Et voici Walking To You Baby. C'est la fin de ce 1206e Sweet Home Chicago. On se retrouve la semaine prochaine avec trois nouveaux invités. Curtis Salgado lui-même pour son actualité et sa vision du blues actuel. Jacques Picard pour la 26e nuit du blues à Caen qui se déroulera le dimanche 12 novembre. Et Jean-Pierre Potier pour le festival Passeur de Blues à Saint-Balaouc du 27 au 29 octobre. Salut à tous, bye bye. Same old place.